Donc, heureusement, avec ce proviseur qui voulait nous faire faire des activités culturelles, nous, Algériens, qui n'étions pas admis ni à faire de la musique, ni à voir l'opéra, ni à voir un orchestre, ni on ne savait même pas ce que c'était. Quasiment même les cinémas, il y avait des cinémas réservés et des cinémas interdits. Et donc, il voulait que nous fassions des activités culturelles. Et comme j'avais fait un peu de musique, de bricolage de musique au Maroc avec des petits copains, de garage, comme on dit ici, eh bien, j'ai prétendu que j'étais chef d'orchestre au
Ah bon?
Maroc. Oui. Ah oui, rien que ça. Oui, chef d'orchestre. Mais j'ai dit, bon, pas un orchestre symphonique, hein, évidemment, mais un orchestre, quoi.
Ouais,
Et là,
ouais.
il m'a dit, bon, ben alors tu es capable de composer un orchestre? Ben, j'ai dit, bien sûr, oui. Alors j'ai fait la liste, j'ai fait des auditions, et puis comme il était très intelligent, il m'a dit, écoute, Omar, tu feras cet orchestre, on va acheter les instruments, tout ce qui s'ensuit, trouve des musiciens, mais vous allez tous vous inscrire au conservatoire pour bien étudier la musique. Et grâce à ça, ben, j'ai pu payer mes études universitaires en jouant de la musique la nuit. Et avec des orchestres, même de France, des orchestres de jazz américains, parce que je faisais partie d'une section rythmique locale, donc qui accompagnait les orchestres de passage, et les vedettes de passage, chanteurs, chanteuses, etc. Et aussi un orchestre de cabaret où je jouais, et puis donc avec cet argent-là, la nuit dans le cabaret, puis le matin à 8 heures à la faculté pour étudier.
Vous avez joué avec Mouloudji. Je sais que ça ne dira pas
Oui.
grand-chose aux plus jeunes, mais les plus vieux
Oui.
vont savoir de quoi on parle.
Oh oui, oh
Ouais.
oui, oh oui, oh oui. Un homme exquis, oui.
Ouais.
Mouloudji,
Donc,
oui.
c'est la musique qui vous a permis d'étudier à l'université en Algérie.
Oh. Ah ben oui, si ce n'était pas la musique, avec la petite bourse qu'on avait, qui était, disons, l'équivalent aujourd'hui peut-être d'une centaine, soit cinquantaine, soixantaine de dollars à peu près d'aujourd'hui par mois. Donc ça, vous n'allez pas bien loin quand vous vivez tout seul, hein?
Non.
Heureusement qu'il y avait la musique qui a complété.
Et tout ça se passe, là, c'est les premières années de l'indépendance de l'Algérie. Vous voulez participer à ça, vous voulez participer à la construction de votre pays.
Ah, mais bien entendu, mais j'en rêvais depuis le Maroc. Parce qu'au
Et ça se
Maroc.
présente comment? Est-ce que les perspectives sont bonnes? Est-ce que la politique des années 60 en Algérie donne espoir? Est-ce que les gens y croient? Comment ça fonctionne?
Ah, mais oui, mais on y croyait, on y croyait. On avait notre gouvernement, c'était Ben Bella. Bon, personne ne se doutait que Ben Bella avait été préparé dans la prison où il était pendant toute la guerre pour être le président que la France voulait, etc. Bon, tout ça, on était loin de toutes ces considérations. Tout ce qu'on savait, c'est que l'Algérie était à nous, que nous étions indépendants et qu'il fallait la construire. Et c'était un enthousiasme, mais d'une qualité que je ne peux pas définir. Les festivités pour l'indépendance, moi je suis arrivé le 22 juillet à Alger, les gens sortaient et jouaient de la musique et chantaient et dansaient nuit et jour encore, et ça a duré 2 3 mois, tellement on était heureux d'être. Et puis évidemment, construire l'Algérie, c'était pour moi un sacerdoce, une joie, un enthousiasme indescriptible.
Vous êtes trouvé dans quelle sorte d'emploi là? D'abord, à l'université, vous étudiez quoi? L'administration? Qu'est-ce que vous avez étudié à
Non,
l'université?
non, non, ça n'existait pas. Là. À mon époque, ça n'existait pas. Les écoles de commerce, d'administration, on n'en avait jamais entendu parler. On ne savait même pas que ça existait. Tout ce qu'on connaissait, c'était la faculté d'économie. Non, moi, j'étais marqué par mes beaucoup, beaucoup, par donc ces professeurs qui m'ont adopté et qui étaient pour la plupart des littéraires. Littéraires, philosophie, etc., etc. Donc des humanistes, quoi. Donc j'étais attiré par l'humanisme et la grande littérature et la philosophie et tout ça. Et puis j'étais marqué par l'injustice dont j'étais l'objet, dont ma famille était l'objet, dont les colonisés étaient l'objet. Et cette injustice-là ne me rentrait pas dans le crâne. Je n'arrêtais pas de me poser des questions. Pourquoi à 10 km de chez moi, il y en a qui ont tout, et nous, on mange une fois tous les 3 jours? Mes voisins avec, pourquoi, 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 pourquoi? Je voulais des réponses à ces questions. C'est ça que je voulais étudier, moi. Or, une fois que j'ai eu les baccalauréats français, parce qu'il y avait encore le baccalauréat français et un baccalauréat algérien qui ont été institués, avec mention bien et mention très bien à tous les niveaux, eh bien là, il y a eu la réconciliation avec le paternel. Et le paternel et toute la famille, évidemment, pour les gens de cette époque-là, l'université, c'est être médecin. Donc, ils ne comprenaient pas que j'aille à l'université si ce n'est pas pour être médecin.
Oui, bien sûr.
D'ailleurs, il disait partout, mon fils est
C'est vrai qu'il y a beaucoup, il y a
médecin.
beaucoup de familles qui pensent ça, vous savez.
Mais à l'époque, c'était synonyme.
Oui.
Université, c'est médecin. C'est tout. C'était pas autre chose. Alors, je me suis inscrit en médecine et je leur ai montré, donc à ma famille, à mon père, mes oncles, mon grand frère, tout ça, le certificat d'inscription, j'étais accepté et tout. Mais en cachette, j'allais à la faculté de philosophie, d'anthropologie, de physique théorique, d'ethnologie, d'histoire des civilisations, parce que je voulais comprendre pourquoi l'humanité peut être aussi cruelle envers elle-même.
S'il a appris à lire sur le tard, Omar Aktouf est devenu un obsédé de l'étude. Il voulait comprendre la raison des inégalités sociales. Et comment vous êtes-vous trouvé un premier emploi?
Oh c'est une fois que j'ai fait d'abord littérature, ensuite philosophie. Et là, bon, tout ce qui s'ouvrait à moi avec des diplômes de littérature et de philosophie, c'était à l'époque, ça s'appelait des licences d'enseignement. Donc, c'était l'équivalent d'une maîtrise d'aujourd'hui. Et donc, tout ce qui s'ouvrait à moi comme perspective, c'était enseigner et puis faire la filière, diplôme d'études supérieures, etc., troisième cycle, doctorat. Mais ça ne m'intéressait pas non plus, juste d'enseigner Rabelais et Baudelaire et Victor Hugo et Platon. C'est pas ça que je voulais. Je voulais comprendre et comprendre dans le terrain lui-même. Alors, pour pouvoir travailler, parce qu'évidemment, avec un diplôme de philo et de littérature, vous n'êtes pas employable, comme on dit aujourd'hui.
Non, ça ne fait pas des vice-présidents.
Voilà, en dehors d'enseigner, je veux dire, vous n'êtes pas employable.
Hein?
Donc, j'ai commencé à étudier l'économie, donc j'ai fait une maîtrise d'économie, et tout en travaillant, comme j'avais fait philosophie et une option psychologie et psychanalyse, avec l'option psychologie, je complétais avec une option de psychologie industrielle. Et avec cette option de psychologie industrielle, j'ai été recruté à la plus grande entreprise d'Algérie de l'époque, qui s'appelle la Sonatrach, qui est l'entreprise de pétrole, comme psychologue de recrutement et de formation. Et c'est là que j'ai commencé donc à travailler à l'âge de... Oh, je devais avoir 23, 24 ans.
Et vous racontez quelque part que c'est là que vous commencez à être déçu de l'Algérie, de la
Ah oui.
façon dont on se comporte quand on
Eh
est
oui.
dirigeant.
Eh oui, malheureusement, malheureusement. Alors, quand j'ai commencé, bon, comme employé, je ne voyais pas évidemment des choses qu'on voit quand on monte en grade, mais comme la Providence m'a donné certaines capacités et certaines habiletés, etc. Bon, donc, je travaillais plus et mieux que la plupart de mes collègues, même plus anciens. Ce qui fait qu'au bout d'une année, j'ai été promu chef des plus anciens que moi, donc chef de service, chef de département. Et au bout d'un an et demi, 2 ans, je me suis retrouvé responsable de tout ce qui était recruté et formé dans toute la compagnie qui faisait 80 000 employés. Donc, ce qui fait un pouvoir assez considérable. Et donc là, mon travail était donc tellement apprécié que finalement, on m'a proposé de passer au stade supérieur, qui est directeur, l'équivalent ici de directeur exécutif, si vous voulez. Mais à partir de là, on est nommé par décret, c'est-à-dire que votre nomination passe par le Conseil des ministres, le Premier ministre, etc. Enfin bon, toute une panoplie de paliers donc supérieurs, parce qu'on devient cadre de la nation. C'est comme ça qu'on appelait ça en Algérie. Et puis là, je me suis vu offrir tout d'un coup des tas de choses qu'on m'offrait jamais avant. Donc, on m'amenait des, je sais pas, des cageots de légumes, de fermes socialistes, de fruits, de ceci, des œufs, de la viande, je sais pas quoi. Et puis, bon, moi, je refusais systématiquement parce que je me disais, la personne qui m'amène ça, c'est pour après me dire que son fils a besoin d'un emploi, etc., etc. Donc, je refusais systématiquement. Et je refusais systématiquement aussi toutes les demandes de personnalités haut placées qui voulaient faire passer des bypass pour leur fils ou leur cousin ou leur neveu, tout ce qui s'ensuit.
Et on vous a fait comprendre que ce n'était pas une bonne idée.
Et que ce n'était pas une bonne idée du tout, du tout, du tout. Mais surtout, c'est le jour où on m'a proposé un terrain à bâtir pour une villa, disons, de standing, et en me disant que tous ceux qui étaient nommés par décret, etc., acceptaient ça, et puis que ça faisait partie du processus. Et là, j'ai compris que c'était une façon, parce que j'avais commencé déjà à voir qu'il y avait des bypass, des favoritismes, des injustices, alors que je ne supporte pas l'injustice, même quand elle est en ma faveur. Quand on m'a proposé ce terrain, cette injustice, c'était pour moi. Mais je l'ai refusé. Et donc, je commençais à voir que finalement, cette Algérie dont je rêvais, j'étais un peu isolé dans ma façon de la concevoir et de concevoir la façon de la servir. Et là, quand j'ai refusé on a commencé à me tabletter, à me montrer la porte, parce qu'évidemment, accepter, c'était se mettre dans le clan des corrompus. Et une fois que vous êtes dans le clan des corrompus, vous ne pouvez plus les dénoncer.
Oui. Alors, on va accélérer un peu, M. Actouf, parce qu'il faut se rendre au HEC de Montréal et on n'y est pas encore. C'est à ce moment-là, à peu près, qu'entrent en jeu les HEC de Montréal, justement, mais en Algérie.
Oui. Parce qu'une fois que j'ai quitté la Solantrac, parce qu'évidemment, on m'a montré la porte, je donnais des cours comme vacataire et je me suis fait embaucher par un institut de formation en économie et en gestion, mais c'était surtout économie. Et économie gestionnaire, si vous voulez, économie industrielle. Et là, cet institut a fait appel à HEC Montréal pour faire une ébauche d'une première école de gestion, de commerce. Donc j'étais l'un des premiers élèves de cette école et je devais devenir l'un des premiers enseignants de gestion en Algérie. Et ça se faisait de cette façon, c'est-à-dire on faisait la première année en Algérie, nous les assistants et les professeurs de cet institut, et la deuxième année on la faisait à HEC Montréal, et ça devenait l'équivalent des MBA. Et après ça, on pouvait postuler pour un PhD.
Alors comment ça s'est passé à Montréal?
Très bien, parce que mon MBA, d'abord je l'ai fait avec Madame Pauline Marois.
Ah oui?
On était collègues de promotion.
Dans la même classe?
Dans la même promotion, disons, on n'avait pas tous les
mêmes cours. Mais vous n'aviez pas le même âge, je m'excuse, je dis ça pour Madame Marois.
Certainement pas. non, pas du tout. Mais on était copains de promotion. Et comme nous étions un groupe d'Algériens, eh bien on était très bien vus par ce qui était HEC, parce que HEC à l'époque, il faut bien se mettre, c'était 74, 74, 75...
C'était l'époque où M. Parizeau est encore professeur au HEC.
Oui, je l'ai eu comme professeur, qui était extraordinaire, paix à son âme. Et M. Parizeau nous disait à chaque début de cours, c'était pratiquement un mantra, n'oubliez jamais de ne jamais confondre ce qui rentre dans la poche des riches avec la santé d'une économie. Alors vous vous rendez compte, il nous a mis ça dans la tête, mais bien comme il faut, hein. Et tout HEC, l'HEC qui m'a pris au MBA et qui m'a recruté par la suite, c'était des péquistes. C'était des gens qui voulaient faire des hommes d'affaires québécois, mais des hommes d'affaires québécois qui soient aussi des faiseurs du pays, du Québec. C'était dans ce contexte-là que j'ai été instruit par HEC. Ensuite, le PhD, j'ai décidé de le faire parce que, on avait le temps, je pouvais le faire au bout d'un an, deux ans, trois ans, mais moi, j'ai décidé de le faire le plus vite possible. Parce que dès 73, quand j'ai quitté un peu le giron du pétrole et autres en Algérie, j'avais déjà décidé de quitter cette Algérie où on m'avait dit, devant mon amphithéâtre où j'enseignais, la police militaire qui venait me voir pour me dire qu'il fallait que j'enseigne le programme officiel, sinon il allait m'arriver des bricoles.
Donc, vous vous sentiez libre de faire ce que vous vouliez.
Écoutez, des bricoles, ça voulait dire que soit je tombais en chômage, soit il m'arrivait plus grave. Quoi. C'est quand la police militaire vient vous dire ce genre de choses, vous savez, vous ne réfléchissez pas beaucoup. Hein.
Une fois arrivé à Montréal, Omar Actouf ne change pas de conviction. Il veut faire une thèse de doctorat en administration à sa façon. Ici, ça n'a pas été le bonheur tout le long parce que dès votre thèse de doctorat, là, vous avez frappé une certaine incompréhension parce que vous vouliez faire votre thèse de doctorat de façon particulière.
Eh bien oui, parce que je voulais étudier, d'abord, quand je me suis mis à lire les classiques dans leurs textes originaux au British Museum, etc., je me suis rendu compte que ce que j'avais appris au MBA, ben, la moitié, c'était des mensonges. On nous a enseigné la moitié d'Adam Smith, la moitié de Taylor, la moitié de Fayol, la moitié de... etc. Je me suis rendu compte qu'il y avait des tas de passages extraordinairement importants et critiques qu'on ne nous a jamais enseignés et qu'on n'enseigne jamais, d'ailleurs, qui ne sont dans aucun manuel. Mmh. Et là, donc, quand je suis arrivé à HEC, eh bien, j'étais imprégné d'abord d'un certain nombre de livres que j'avais lus en philo, notamment Simone Veil, La condition ouvrière, ou George Friedman, Le travail en miettes, etc. L'établi de Robert Linhart et tout ce qui s'ensuit par la condition ouvrière. Et donc, je suis arrivé ici et en me disant, je vais faire une thèse de doctorat qui n'est pas une 100 000e thèse à la Mintzberg, c'est-à-dire qui étudie le management du point de vue de ceux qui l'appliquent. Ça suffit. Il y en a plein les tablettes, il y en a des millions. Alors je me suis dit, moi, je vais aller apprendre le management de la bouche de ceux qui le subissent, c'est-à-dire les ouvriers de base. Et donc, j'ai cherché à me faire embaucher comme ouvrier de base. Ça a été extrêmement difficile. J'ai dû user de ruses.
Mais vous avez trouvé le bon endroit, balayeur à la brasserie O'Keeffe.
Exactement. Et le vice-président de ressources humaines de O'Keeffe qui m'a reçu parce que j'ai été pistonné par un ami avocat, professeur de droit du travail à HEC, qui m'a fait rentrer là, le vice-président ressources humaines, MBA, etc., qui me dit, « Monsieur Aktouf, avez-vous déjà vu des ouvriers ?» Alors j'ai fait l'idiot, bien sûr. Oui. J'ai fait l'idiot. J'ai dit, « Non, monsieur, non, j'en ai jamais vu. » Moi, je... Ah, mais... Alors il m'appelait docteur, parce que c'était la dernière phase de mon doctorat. Mm-hmm. Docteur Aktouf, parce que pourquoi ? Ah ! Il me dit, vous savez, les ouvriers, c'est menteur, c'est fainéant, c'est paresseux, ça ne fait que pleurnicher, ça vous raconte des histoires abracadabrantes, ça ne cherche qu'à tirer au flanc. Alors, s'il vous plaît, tout ce qu'il vous raconte, vous venez chaque soir, ou à chaque fois que vous passez des trois chiffres dans la bière, il y a le chiffre du jour, de la nuit et de l'après-midi. Après, en tout cas, le chiffre du soir, vous venez me voir et vous me racontez tout ce qu'ils vous diront et moi, je vous rétablirai la vérité. Alors voilà comment j'ai été reçu. Et en anthropologie, j'ai appris que quand vous allez dans un terrain où il y a des indigènes, parce que pour moi, les ouvriers d'O'Keeffe, c'était mes indigènes. Oui, c'est comme un anthropologue qui va étudier les Innus au XVIIe siècle ou au XVIIIe, je sais pas, au XIXe. Eh bien, donc, il faut se faire accepter, et j'ai appris en anthropologie que pour se faire accepter, il faut surtout dire la vérité, toute la vérité, parce que l'indigène va vous poser des questions.
Alors, vous avez été reçu comment sur le plancher ?
Eh bien, d'abord très mal, parce que, évidemment, j'avais pas du tout des mains d'ouvrier qui balayaient un plancher. J'avais pas un langage d'ouvrier qui balaye ou qui essuie les machines.
Vous aviez perdu vos mains de berger depuis longtemps.
Donc, depuis longtemps, c'était évident, juste à mon accent. Et puis, il faut savoir que les balayeurs de plancher, je me suis fait embaucher comme balayeur de plancher saisonnier, c'est-à-dire d'été. Donc, ceux qui sont embauchés l'été, c'était les fils des ouvriers d'O'Keeffe, personne d'autre. Parce qu'il y avait un syndicat maison, tout ça. Donc quelqu'un qui n'est ni fils d'ouvrier, ni rien du tout, etc., et qui se fait embaucher, ben, au départ, ben, vous êtes plus que louche, vous êtes bizarre, vous êtes tout ce que vous voudrez.
Vous êtes peut-être un espion.
Bien sûr, on m'a attribué des tas de rôles d'espion de la compagnie, d'espion de Toronto, de ceci, de cela. Mais évidemment, pour me faire accepter, ben, j'ai commencé par dire toute la vérité. Je fais un doctorat, alors que le vice-président ressources humaines m'a dit surtout, bien sûr, monsieur Aktouf, vous ne leur direz jamais que vous êtes docteur, que vous vous dites simplement que vous avez été embauché comme ouvrier, puis vous êtes ouvrier, c'est tout, hein.
Alors, au final, ça s'est passé comment?
Eh bien, au final, heureusement que j'avais fait de ces études d'anthropologie, donc je savais comment m'y prendre avec les ouvriers. Et certains groupes d'ouvriers, donc surtout les ouvriers dits de production, m'ont accepté, m'ont adopté. Et ils ont cru en moi. On est devenu, je me suis fait beaucoup d'amis. Et puis, ben, à partir de là, avec eux, en travaillant avec eux, en les écoutant parler de leur travail et de la façon dont ils subissent le management, ben, j'ai appris d'abord une chose, c'est que pour l'ouvrier, en tout cas d'O'Keeffe, je suppose que c'est général parce que j'ai fait beaucoup d'autres entreprises de la consultation d'ethnométhodologie de la même façon après, et ben, pour l'ouvrier, le cadre, le management, les théories du management et de la fiente de poulet, c'est la même chose. Ça ne vaut absolument rien. Toutes les théories de motivation de ceci, de cela, ils ne sont pas dupes une seconde, pas une seconde. Ils font semblant. Donc ils m'ont appris des choses, mais inouïes. Ce qui fait que j'ai écrit une thèse de pratiquement 1000 pages. Mon comité m'a arrêté d'écrire parce qu'ils m'ont dit que ça suffit.
Et ça a été reçu comment, une fois rendu devant les instances universitaires,
Ah
cette
ben,
thèse dont vous nous décrivez l'origine, ça a été reçu comment?
ça a été reçu d'abord. Écoutez, j'ai eu des tas de critiques parce qu'on faisait au fur et à mesure des comptes rendus de l'avance de notre thèse. Et au fur et à mesure où je faisais mes comptes rendus, évidemment, j'avais des critiques d'un peu tout le monde. D'abord, comment se fait-il que je donne du crédit à la parole d'un ouvrier? Alors, vous
Ben, bien sûr.
imaginez,
Ouais,
dans une école comme HEC, un professeur d'HEC, un ouvrier, tu crois ce qu'il dit, toi, là? Comment? Bon, donc j'ai eu droit à ça, évidemment. Mais tout le monde avait dans la tête que je retournais en Algérie. Je criais pas sur les toits que j'avais l'intention de rester. Alors que j'avais déjà fait une demande d'immigration à Paris pour pas être repéré en Algérie, etc. Bon. Et donc, pour tout le monde, je faisais ma thèse et puis je dégageais. Mais alors, heureusement, mon comité, dont Henri Mintzberg a quasiment fait partie, était composé de gens de sociologie. On avait droit à un membre d'HEC même, un membre de McGill, et les autres pouvaient être d'ailleurs. Donc j'ai pris des gens de sociologie, dont Serge Bouchard. Serge Bouchard était celui qui était chargé de la partie anthropologique de ma thèse. Et Serge Bouchard a adoré, évidemment. Et comme directeur de
C'est tout à fait son
soutenance,
genre, oui, en effet.
ben bien sûr, cet homme extra.
Je vous pousse un peu, M. Actouf, parce que le temps ne peut pas être étiré à l'infini. Alors, vous
Oui.
vous retrouvez à Trois-Rivières comme professeur à l'UQTR. Comment ça se
Oui.
fait, ça?
Ben, parce que j'ai fait des demandes un peu partout depuis l'Algérie, comme j'avais pris la décision de quitter, une fois que le PhD était en poche, et le PhD donc était un peu mon passeport. Et donc j'ai eu des propositions, mais des propositions de contrats de courte durée, mais comme j'avais 4 enfants, etc., je ne pouvais pas accepter en France, en Angleterre, au Moyen-Orient et ailleurs. Eh bien, j'ai eu une proposition de Trois-Rivières, grâce d'ailleurs notamment au professeur Pierre-André Julien, que j'adore.
Pierre-André Julien, le spécialiste du développement régional à
Absolument,
l'université. Oui.
absolument, qui est un homme absolument adorable. Il a beaucoup contribué à ce que j'arrive à Trois-Rivières. Et donc, août 1983, je suis arrivé à Trois-Rivières, et là, ça se passe très bien. Alors qu'à HEC, mes collègues d'HEC m'ont dit, oulala, Trois-Rivières, mais tu vas être avec des habitants, tu vas voir. Ils m'ont décrit Trois-Rivières comme si j'allais aboutir à un village du Moyen Âge de Navarre ou de Bretagne, quasiment.
Et vous,
Oui, mais
mais vous
ça.
n'y restez pas très longtemps, hein?
Ben, 3 ans, mais c'est tout à mon honneur, parce qu'en 3 ans, j'avais tellement peur de ne pas satisfaire aux critères d'être titularisé, parce que j'étais embauché comme adjoint, évidemment. Eh bien, j'écrivais partout, j'envoyais dans toutes les revues, j'écrivais jour et nuit, les samedis, les dimanches, tout ça, etc. Les sociétés savantes et partout où je pouvais faire quelque chose. Et finalement, ben, je suis arrivé à publier dans des revues où beaucoup de professeurs, même d'HEC, n'ont jamais même été mentionnés. Et donc là, HEC en 86 se retrouve avec un cours de management que les étudiants ne veulent plus du tout étudier. Ils veulent plus en entendre parler parce que c'était exactement la même chose que ce qu'ils avaient étudié au Cégep. Et là, HEC Montréal vient me chercher ex officio pour leur faire un nouveau cours de management. Et c'est comme ça que j'ai écrit ce livre qui est sorti en automne 89. Et à partir de septembre 88, je suis arrivé là en 86-87, donc en 88, chapitre par chapitre, chaque chapitre que j'écrivais était le chapitre à lire dans le cours de la semaine suivante. Et une fois qu'il est devenu livre, il est devenu obligatoire et il est resté obligatoire 32 ans, jusqu'à ce qu'arrive à HEC ce qu'on appelle à Desjardins les gens de banque, c'est-à-dire les gens, comme moi je les appelle, les perroquets de Harvard, c'est-à-dire ceux qui répètent le discours américain de A à Z. Il y a les leaders, les bien-nés, les intelligents de naissance, les leaders de père en fils, de père en fille. Et il y a, comme les appelait un de mes collègues qui a été formé aux États-Unis, professeur de psychologie industrielle à HEC, appelait les ouvriers « the assholes ».
Oui, bien sûr. Oui, on ne traduira pas, je pense que les gens ont compris. Oui. Vous dites que ça s'est promené à travers le monde, cette méthode américaine, d'Amérique du Sud, d'une partie de l'Europe, sauf Allemagne et pays scandinaves. Et je sais que vous avez travaillé beaucoup avec eux. Un mot là-dessus pour terminer, s'il vous plaît.
Oui. J'ai travaillé une dizaine d'années avec la GDZ, l'agence de coopération internationale allemande. Donc j'ai été aussi appelé à travailler au Danemark, en Suède et dans les pays scandinaves. Bon, ben, dans ces pays-là, comme l'écrit Mintzberg lui-même d'ailleurs dans son livre « Managers, not MBAs », il n'y a pas d'école de gestion en tant que telle, ça n'existe pas. Et au Japon, c'est même mal considéré. Un ingénieur en mécanique qui devient chef d'un atelier mécanique et qui va faire un MBA, c'est mal vu parce que c'est considéré comme s'il avait mal réussi dans sa compétence comme mécanicien à imposer son autorité et sa compétence à ses collègues. Donc c'est même mal vu. Alors la gestion là-bas, c'est enseigné d'une toute autre façon. Vous avez plusieurs filières. Vous pouvez faire la filière technique, la filière management, la filière commerciale, la filière, etc. Vous avez plusieurs filières, vous avez le choix. La filière familiale. Vous pouvez choisir filière familiale et faire du 9 à 5, pas de réunion samedi, pas le dimanche, pas après 5 heures, pas après rien du tout. C'est votre choix. Et donc, ceux qui choisissent la filière management, ils peuvent aller suivre, en plus de leur diplôme donc d'ingénieur, etc., des cours de comptabilité, de finance, mais à la faculté d'économie, à la faculté de sociologie, qui enseigne la sociologie. Il n'y a pas de psychologie industrielle dans une école de commerce dédiée. Ça existe maintenant, petit à petit.
Et ça ressemble beaucoup au modèle que vous souhaitez.
Mais bien entendu, parce que regardez l'Allemagne et la Scandinavie, franchement. Écoutez, le taux d'inégalité est le plus bas au monde dans ces pays-là. L'éducation est gratuite. À l'université, vous pouvez faire 15 doctorats gratuitement et on vous paye pour étudier gratuitement. Vous avez 1 000, 1 500, 2 000 dollars par mois pour étudier gratuitement. Écoutez, quand même, c'est... Alors, qui va avoir les meilleurs ingénieurs, les meilleurs docteurs, les meilleurs, etc. Le pays où on étudie gratuitement et on a de l'argent pour étudier gratuitement, ou les pays où il faut être millionnaire pour étudier, ça m'a l'air évident. Ben bien sûr que c'est ce système-là que je veux. Et c'est leur, en plus, leur filet social, leur système de filet social qui fait que leur système de santé, leur système d'éducation, leur système industriel, leurs produits qui sont les meilleurs au monde, etc., etc., sont ce qu'ils sont. Or, le modèle américain enseigne l'élitisme, enseigne tu gagnes ce que tu peux à la force de tes poignets. Et comme le faisait Rockefeller, il dynamitait ses concurrents.
Voilà, ben écoutez, c'est le monde que vous souhaitez, c'est peut-être un peu le monde qu'il faut qu'on se souhaite. Je vous remercie beaucoup, Omar Aktouf.
C'est moi qui vous remercie.
C'était le professeur Omar Aktouf aux entrevues du 21e, avec la collaboration de Mehdi Alaoui à la recherche, Alexandre Leclerc à la technique et Jacqueline Castonguet à la réalisation du 21e. Ici Michel Lacombe, à lundi prochain.